les écoles labusserines tous les derniers jeudis du mois, exceptionnellement. Aujourd'hui, le 3 octobre, dans les locaux de l'association Main de la Main, la thématique des écoles de labusserines d'aujourd'hui, c'est Main dans la Main, itinéraire d'une association d'entraide devenue indispensable. Pourquoi indispensable ? Parce que Main dans la Main, historiquement parlant, on en parlera avec Madame Banach. En tout cas, merci de nous écouter au 88.4. Voilà. Avant de commencer l'émission de radio, je vous invite d'aller sur notre site du vivreensemble.org. Vous allez voir le travail qu'on fait, nous, l'association, le comité Maméga, avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy, et qui j'inclus aussi l'association Main dans la Main aussi. Je tiens à remercier aujourd'hui les invités qui sont là aujourd'hui. Tout d'abord, et je tiens à remercier aussi Jean-Pierre qui va co-animer l'émission de radio avec moi. Bonjour Madame Banach.
Bonjour.
Voilà. Jean-Pierre, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui poser des questions concernant la structure qu'elle gère depuis qu'elle a créée ?
Bonjour Madame Banach. Bonjour à vous, les salariés de Main dans la Main. Donc, on dit qu'en France, en ce moment, il y a 10 000 emplois qui sont à pourvoir pour venir en aide aux personnes âgées indispensables. Alors, Main dans la Main est une association qui aide les personnes à domicile. C'est le service à la personne. Oui. Depuis quelle année existe Main dans la Main, Madame Banach ?
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Main dans la Main existe depuis 2002. Cette association a été créée par les habitants du 14e, plus précisément de Saint-Barthélemy 3. Suite à ça, l'association a été autorisée par le Conseil Général en 2005 et agréée en 2004 par la directe.
Voilà. D'accord. Cette association a été créée parce que ça correspondait, il y avait un besoin donc de soutien de la population. Quelles sont un peu vos orientations, votre projet ?
Au départ, quand Main dans la Main a été créée, c'était vraiment destiné aux personnes âgées, aux hommes.
Aux hommes.
Aux hommes.
Du territoire ? De quel territoire ?
Du territoire du Grand Saint-Barthélemy. Voilà, donc quand on dit Grand Saint-Barthélemy, il y a Labusserine, il y a Saint-Barthélemy, Picon.
Oui, ça représente pratiquement 17 000 habitants.
Voilà. Ouais, et au bout de quelques mois, parce que très souvent, on sait que les femmes ont la facilité d'aller vers les travailleurs sociaux, mais pas les hommes. J'étais d'abord dans l'humanitaire. Et je voyais, surtout en plein hiver, les personnes âgées, c'était toujours sur les arcades. Même quand il faisait froid, ils étaient là le matin jusqu'à 10 heures. Ils partaient, ils revenaient dans l'après-midi. Et donc, à partir de là, j'ai dit, c'est intéressant d'aller vers ces personnes, puisque dans les centres sociaux, que ce soit dans les réunions, on ne les voit pas.
Effectivement, les hommes âgés n'interviennent pas trop dans le réseau associatif.
Exactement. Et au bout, l'association a pris tellement d'ampleur que même les femmes, les jeunes, les moins jeunes poussaient nos portes. Et donc, on s'est dit, pourquoi faire que les hommes ? Alors, on s'est étendu.
À quel moment la structure a trouvé son assise, s'est développée ? Au début, vous étiez comment ? Vous fonctionnez comment ? Et à ce jour, Main dans la Main, ça représente combien de salariés ? Combien de personnes vous touchez ? Quel public ? Combien de personnes ? Et le territoire de Saint-Barthélemy, vous intervenez où exactement ?
L'association s'est étendue, vous savez, de bouche à oreille, parce que... On s'est rapproché des structures existant dans le quartier, mais qui n'avaient pas d'autorisation d'aller dans les domiciles des personnes âgées. Et donc, on s'est rapproché de ces structures et des médecins. C'est surtout les médecins. Quand on a été... parce qu'on ne pouvait pas aller au domicile de toutes ces personnes sans l'autorisation du département.
Comme j'ai compris, ça, la communication est passée par le médecin.
Par les médecins.
D'accord.
Par les médecins du secteur du Grand Saint-Barthélemy. Voilà.
Donc c'est eux qui ciblaient un peu les personnes en difficulté,
voilà,
qui avaient besoin de soutien.
Exactement.
Alors, concrètement, moi je joue le candide, mais cela me va très bien. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces personnes-là? Comment ça s'organise?
On fait des démarches administratives parce qu'au départ, ça a commencé par les démarches administratives. Et dans les démarches administratives, on n'était que des bénévoles. Il n'y avait pas de salariés à la création.
Donc, en 2002, 2004.
De 2002 jusqu'en 2007, il n'y avait pas de salariés. Il n'y avait que des bénévoles. Ma collègue qui est là, elle était au chômage à l'époque. Elle est venue demander un stage. Et comme elle est géniale, on s'est mis à travailler en tant que bénévole. Personne n'avait de salaire, personne.
Mm-hmm. C'est important de le dire.
Et donc, il fallait les fonds propres, parce que main dans la main, il y avait les fonds propres des bénévoles, des cotisations par l'équipe, parce qu'on n'était pas connu du secteur.
Alors, combien de bénévoles et combien de... Ça représentait combien de...
On avait 10 bénévoles.
10 bénévoles.
On avait 10 bénévoles et dans les 10 bénévoles, on avait des médecins, on avait des travailleurs sociaux, on avait des secrétaires, on avait des éducateurs. Voilà.
Madame Banac, je voulais savoir, association loi 1901, vous n'avez pas droit des contrats aidés ce temps-là, non?
Ben, à l'époque, comme je vous le disais tantôt, on était dans les vapes, on ne connaissait pas. Je veux revenir parce que je ne peux jamais parler de main dans la main sans parler de Géronto Nord. Parce que c'était grâce à Géronto Nord que main dans la main s'est développé. Donc, Géronto Nord s'est passé au clic. Maintenant, c'est Info Senior, voilà, qui est aussi dans le 14e. C'est grâce, à l'époque, c'était Géronto. Il y avait une jeune dame qui était responsable développement. Qui un jour, elle passait dans le quartier, elle faisait une visite et elle a vu plein de gens et elle est venue vers nous. Elle nous a demandé, qu'est-ce que vous faites? On a expliqué et elle dit, mais non, vous savez, pour faire ça, il faut que vous soyez autorisé et agréé. Et donc, on a commencé à travailler avec Géronto, le Géronto Nord, qui nous a vraiment aidés au niveau des démarches.
Alors, pour vous, c'est peut-être une évidence, pour moi, ça l'est moins. Donc, vous avez parlé de soutien administratif.
Ouais.
Au-delà du soutien administratif, qu'est-ce qui se passe? Quelle relation vous établissez avec le médecin? Et est-ce qu'il n'y a que le soutien administratif?
Non.
Ou est-ce qu'il y a d'autres champs d'intervention?
Non, il y a d'autres champs d'intervention, parce que ça, c'était au départ les démarches administratives. Et maintenant, quand on a eu l'autorisation... on a été reçu, puisque c'est le département qui donne l'autorisation. Donc, on a été...
Agréé ?
Autorisé.
Autorisé, d'accord.
Autorisé, voilà. C'est pas pareil. Autorisé parce que l'autorisation vous permet de travailler avec les personnes... maintenant, on dit les personnes de bel âge. Voilà, donc à partir de 60 ans. Voilà. Et donc, le département nous a donné... un canevas, donc une feuille de route. En 2005.
2005.
En 2005. Donc, ils nous ont donné une feuille de route, un cahier de charge, parce que quand on dit on travaille avec les personnes âgées, c'est vraiment pas de la rigolade. Vous avez un cahier de charge que vous devez répondre.
Ensuite, comment ça s'est développé à partir de 2005?
À partir de 2005, ça s'est développé. On a commencé à faire des flyers. On a commencé déjà avec les prospectus. On mettait dans les boîtes aux lettres les bénévoles parce qu'il y a un secteur bien défini. On avait quelques secteurs. Mais quand on a eu l'agrément, on s'est étendu dans tout Marseille. Voilà. Et donc, et là, les médecins ont commencé à nous envoyer les personnes, les dossiers, puisqu'on avait, parce qu'il y a toute une trame de dossiers qu'il faut remplir. Voilà. Donc, les personnes venaient, ils nous les expliquaient, on les renvoyait chez leur médecin traitant. Et les médecins traitants, il y a un certificat médical dans ce volet, dans les trames du dossier de l'APA, donc allocation personnalisée pour l'autonomie. Et donc ce dossier est déposé au département qui passe en commission. Et si le dossier, si les médecins, la commission approuve ce que le médecin traitant a mis, il y a un médecin.
Continuez.
Voilà, il y a le médecin qui est désigné par le département qui va revenir au domicile de la personne âgée pour voir exactement si ça correspond à ce qui est marqué sur le certificat.
Il faut rajouter aussi pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent que quand ils vont voir le médecin, par rapport à l'acceptation du département, comme je vous ai compris, c'est par rapport au degré de sa maladie.
Voilà.
Plus sa maladie est grave, plus les salariés auront l'opportunité de mieux travailler.
Voilà, donc en GIR, donc il y a des GIR, ça part de GIR 1 jusqu'en GIR 6, et donc c'est déterminé là.
Degré d'autonomie.
Oui, voilà. Et donc les travailleurs sociaux, donc comme on appelle l'assistante sociale, va être désignée, qui va prendre contact avec la famille, qui va faire une visite aussi, donc la mise en place de la prise en charge. Et il y a une liste d'associations autorisées. On demande à la famille de choisir l'association laquelle va intervenir au domicile.
D'accord.
Jamais on n'impose pas. Ni les assistants sociaux, je dis assistants parce qu'il y a aussi des hommes, ni les assistants sociaux, ni les médecins n'imposent pas aux familles le choix de la structure. Donc c'est la structure elle-même et c'est la personne elle-même qui choisit la structure avec laquelle vont travailler.
D'accord. Donc de façon concrète, un travail administratif, ça peut être un lien au niveau du médical, ça peut être une recherche de logement, ça peut être vous intervenez, quels sont les soutiens?
Eh bien, vous savez, si on se met vraiment à parler de main dans la main, quand on a commencé, vous savez, je vous ai parlé des hommes, et on a découvert que certaines personnes avaient la retraite principale et certaines n'avaient pas la retraite complémentaire. Parce qu'à l'époque, quand les personnes travaillaient, je suppose qu'il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas ceci, il y avait un banquet, comme ils appelaient. La fête se passe, on vous donne vos papiers de retraite, mais certains ne savaient pas qu'il fallait faire les dossiers pour la retraite complémentaire. D'où on voit souvent des personnes avec des retraites minimes, parce qu'ils n'ont pas la complémentaire. Donc, on a commencé à faire les démarches, et voilà, donc pour obtenir la complémentaire. Et il y a un volet que je laisserai Madame Delgado parler, et on a trouvé qu'il y a des surendettements chez les personnes âgées.
On va faire une pause musicale, on en parlera après.
Voilà.
J'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste, bien comme il faut, dribbleur comme Chiffo, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée, j'ai méchamment menti et ça l'a fait. J'ai menti comme on tousse, sans que l'on t'arrête me pousse. J'en ai fait des coups en douce, tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime, je le jure, voilà la radime. Voilà, voilà. Je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands faire le cow-boy avec des balles à blanc, ramasser beaucoup d'oseille et blanc. À 10 ans, j'étais dur à cuire, hein. Je voulais passer mon permis de conduire, hein, à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit, signe, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà. Me disait, ne fais pas l'inculte, dis bonjour quand tu croises un adulte. Et moi t'es-tu comme deux chameaux qui se disputent pour un verre d'eau. Il a fallu que je fasse le beau et va savoir pourquoi sous le préau, c'est l'adulte que t'es sans chapeau. À 10 ans j'étais farouche, il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe, c'est pour la rime, je le jure sur la tête de cime, je le jure sur la tête de cime. Voilà, voilà. Quand je sortais de chez moi le matin, je faisais croire à tous les copains que pour me marave, ils étaient vains. À 10 ans, j'étais en colère, on voyait plus les bulletins scolaires. Mineur, j'avais l'avantage majeur d'avoir mis à la main de le facteur. Tu me crois, tu vaux pas un CFA, je le jure sur la tête de moi, je le jure sur la tête de moi. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà.
Toujours en direct, les échos de la Busserine, coup de projecteur sur la station Main dans la Main, sur un itinéraire indispensable, hein, la structure de la station Main dans la Main, avec Madame Banac et l'ensemble des salariés. Les salariés se présenteront tout à l'heure. Et Jean-Pierre, qui est là, qui co-anime l'émission de radio. Je vous invite toujours, pour les auditeurs et les auditrices, d'aller sur le site du vivreensemble.org. Du comité Maméga, et vous allez voir un petit peu le travail qu'on fait avec l'ensemble des partenaires du Grand Saint-Barthélemy. Jean-Pierre, je te repasse la parole.
Alors, nous avons vu avec Joséphine Banac que l'association Main dans la Mer, de 2002 à 2007, a travaillé avec une dizaine de bénévoles. À ce jour, donc, nous avons vu aussi que cela correspondait à un besoin, puisqu'il y avait un ciblage et un repérage du personnel médical qui orientait les personnes isolées vers vous. Vous avez pu donc les soutenir au niveau administratif, au niveau des démarches, au niveau des retraites. Quel est autre type de prise en charge vous mettez en place, et est-ce que cela n'a pas nécessité une formation au niveau du personnel ? Puisqu'à ce jour, vous allez nous parler de Main dans la Main, du nombre de personnels que vous avez et donc de la formation qui est mise en place pour pouvoir accompagner ce public.
Oui, tout à fait. C'est bien, la question est bien posée. Vous savez, il y a quelques années, bien longtemps, n'importe qui pouvait aller travailler chez Pierre, chez Paul, chez Jean, en disant, ben, je sais travailler, je suis une femme de ménage. D'ailleurs, c'est ce que les familles, certaines personnes, l'étiquette qu'on donne à tous ces salariés, c'est pas seulement dans notre structure, mais dans notre secteur d'activité. Sachez que Jean-Pierre, depuis quelques années, depuis la loi de 2 janvier 2002, on exige, c'est exigé, qu'une structure ait des salariés diplômés, qualifiés. On ne peut plus se lever maintenant, se dire, ben, je vais aller travailler, je vais aller au domicile, travailler chez les gens. Non, c'est plus ça.
Il n'y a pas de place pour la spontanéité.
Ah,
en
non,
fait.
Non,
ça
non.
Correspond,
il faut
vraiment une formation.
À une formation qualifiante, certifiante et diplômante, avec des diplômes d'État. Voilà. Malheureusement, notre secteur d'activité est très, n'est pas bien connu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce sont les décideurs? Est-ce que ce sont les personnes? Mais nous, ici, dans Main dans la Main, quand on a un dossier qui nous est remis, on fait une visite d'évaluation des besoins à domicile. Voilà. Et je peux vous garantir que Main dans la Main, en prestataire, on a 90% de nos salariés sont diplômés.
Diplômés.
Voilà. Et on y tient vraiment absolument parce que beaucoup rentrent ici sans diplôme, sans formation. Le but pour nous, parce que la personne âgée est sacrée pour nous.
Ça veut dire que si les auditeurs qui nous écoutent ont en mémoire des personnes isolées, qui ont besoin d'un soutien, ils peuvent contacter Main dans la Main.
Oui.
Sur quel numéro donc, ils peuvent le faire?
Main dans la Main répond au 04 91 58 31 46. On a aussi le numéro d'astreinte qui, que je vous donnerai tout à l'heure.
Numéro d'urgence, c'est ça?
Oui, oui. Ah, oui. Voilà, je veux le donner tout à l'heure.
Quand vous dites le numéro d'urgence, c'est-à-dire même un week-end, vous pouvez intervenir?
On intervient de 8h à 19h.
D'accord.
Pour les personnes âgées. Et on a le volet parce qu'on a été...
Votre public, ce sont des gens qui sont...
Non, pour tout le monde, oui. D'accord. Voilà, de 8h à 19h. Et on a aussi le service des personnes en situation d'handicap, puisqu'on est labellisé sur l'handicap.
D'accord.
Voilà, ouais. On a une labellisation pour travailler auprès des personnes en situation d'handicap. Donc, c'est de 7h à minuit.
Ah oui,
donc, ce numéro d'astreinte est là donc, pour les urgences chez les personnes âgées, les personnes de bel âge. Voilà.
Pendant que les salariés récupéreront le numéro, nous allons poursuivre.
Voilà, regarde.
Donc, vous avez parlé de formation. On voit bien que la notion d'indispensable s'impose quand on voit le nombre de salariés mandataires et prestataires. Donc, ça veut dire qu'il y a un Main dans la Main correspond à un réel besoin et qu'on ne pouvait pas passer au niveau du travail de la mémoire à côté. Donc, que peut nous dire la coordinatrice qui est présente aujourd'hui?
Je vous ajouterai quelque chose au niveau des formations. Donc, au niveau des formations, on a les assistantes de vie aux familles, on a des auxiliaires de vie aux familles, les auxiliaires de vie sociales, et on a les AMP, aides médico-psychologiques.
D'accord. Donc, voilà. Tout ce personnel-là, de façon concrète, qu'est-ce qu'elles font qu'est-ce qu'elles font au niveau du travail avec les familles et avec le personnel? Qui peut nous prendre la parole?
Disons que je me présente, Amélia Coronel. Chaque salarié a sa fonction. Par exemple, l'auxiliaire de vie sociale, elle a un rôle important parce que non seulement elle va accompagner la personne dans le rôle essentiel de la vie, mais aussi dans les relations avec l'extérieur, c'est-à-dire un accompagnement ciblé selon les besoins de chaque personne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme disait Madame Banac, c'est pas simplement faire le ménage, mais c'est prendre la personne dans sa globalité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, moi, j'interviens dans le planning, donc pour affecter, l'organisation du planning, pour affecter chaque salarié. À chaque bénéficiaire correspondant à ses besoins.
Alors, de façon concrète, Angélique, est-ce que vous pouvez nous dire combien de salariés peuvent intervenir auprès d'une personne?
Donc, en fait, plusieurs personnes peuvent intervenir, d'accord? Mais on fait en sorte que la personne n'est pas envahie.
Oui.
C'est-à-dire que la personne doit avoir maximum 2 salariés par semaine, par exemple. Après, on tient compte aussi de la situation, de l'handicap, puisque si une personne, elle est grabataire, ça veut dire qu'elle est au lit, qu'elle ne peut rien faire, donc on ne va pas mettre une aide ménagère, simplement. On va mettre une auxiliaire de vie sociale qui est apte pour répondre à ses besoins pratiques. Voilà.
Merci.
Les personnes qui sont grabataires, il y a des médecins. Donc, il faut que l'intervenante puisse donner, quand le médecin a besoin de certains renseignements, qu'elle soit en capacité de répondre au médecin. Parce que aussi dans les domiciles, vous avez, il n'y a pas que les intervenantes, il y a toute une équipe pluridisciplinaire. Vous avez les infirmiers, vous avez les kinés, vous avez les ergothérapeutes avec qui on travaille dans le domicile. Donc, il faut vraiment que ça soit coordonné.
Une question, Madame Banac. Je reviens sur le territoire du Grand Saint-Barthélemy. Mm-hmm. Combien de personnes âgées vous touchez en tout ? C'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme.
Parce que là, on a simplement parlé des salariés, comme disait Madame Banac. On a 100, plus de 100 personnes côté mandataire, plus 150 côté prestataire. Donc, déjà, que ça, ça fait déjà un nombre important. Et après, il faut gérer en fonction, donc les salariés, donc là on est à côté prestataire, les salariés main dans la main, il faut compter une quarantaine de salariés. D'accord ? Que pour gérer donc ces personnes donc, en situation.
Donc main dans la main, du coup, c'est une véritable entreprise. Et pour fonctionner, comment vous faites ? Alors, est-ce que vous avez des financements de l'État ? Vous fonctionnez ? Quelle est votre situation à l'heure actuelle ?
Mais ça, c'est vraiment une question
clé.
Voilà, donc on fonctionne parce que, ben, comme je le disais tantôt, on est autorisé par le département. Donc, le département prend en charge les personnes âgées. Il y a la MDPH, donc les personnes en situation d'handicap, et suivant les GIR, voilà, et suivant les revenus de chaque personne, donc il y a un taux de prise en charge des heures qui sont octroyées à la personne. Et d'accord. Donc, c'est le département qui verse cette somme. Cette somme est versée correspondant au GIR. Et c'est versé à l'association directement. Parce qu'avant, il semblerait très longtemps, quand on versait ces sommes aux familles, parfois il y avait des problèmes, les familles gardaient la somme et ce n'était pas versé. Et maintenant, c'est versé directement aux structures, et ce sont les structures qui rémunèrent les salariés, les charges et tout ce qui suit. Et les miettes qui restent, bon, étant donné que c'est une structure, on est une structure de loi 1901, on ne peut pas faire de bénéfices. Et au niveau administratif, c'est là où le bât blesse. On le fait gratuitement.
J'en reviens par rapport à la loi 1901, Madame Banac, vous venez de le dire. C'est vrai que je ne vais pas parler sur l'aspect médical que vous menez au sein du Grand Saint-Barthélemy et d'Anto-Marseille. C'est important de soulever. Dans le cadre des activités aussi, c'est important. Vous sortez aussi ces personnes-là pour faire des activités. Est-ce que dans le cadre de la politique de la ville, vous avez les moyens de faire des demandes de subvention, peut-être en droit commun, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible ou pas ?
Est-ce que ça a déjà été fait déjà ?
Il y a au début de la création, on ne cite pas les contemporains, mais bon, il y a au département, donc quand on a été autorisé, on a déposé des demandes pour...
Droit commun ou politique de la ville ?
Non, droit commun, voilà. Et on a fait aussi au niveau de la politique de la ville. Voilà, donc au niveau du département, on avait eu pendant 2 ou 3 ans un peu, donc dans les 8 000, voilà, donc 8 000 chaque année, 8 000 euros qui nous étaient versés, mais ça permettait déjà pour nous de nous acheter les blouses, de sortir les personnes, parce que les personnes, nos bénéficiaires, même d'autres personnes âgées qui ne font pas partie de la structure transitent par chez nous. Pourquoi ? Parce que ce sont les organismes qui les envoient.
Ça, c'était dans le passé.
Même jusqu'aujourd'hui. D'accord. Donc, on fait des repas parce que bon, on voit que ben, les personnes âgées, beaucoup sont sous-alimentées, sont isolées. Qui sont même ici dans le Grand Saint-Barthélemy, ce que vous ne savez pas. Ben, nous, on a eu quelques années à trouver une personne âgée décédé seul dans l'appartement.
C'est incroyable.
Ici. Donc, vous savez, on a plein de personnes qui sont isolées autour de nous. Et on est devenu tellement égoïste que ces personnes... voilà.
Madame Banac, autour de l'alimentaire, vous avez parlé de colis.
Voilà.
Comment ça se passe?
C'est
une fois par an, c'est deux fois par an.
Nous, ici, au niveau des personnes, des seniors, on fait des colis, à part des colis de Noël, mais par nos propres moyens. Surtout quand la personne est orientée vers nous. Tant que la personne n'a pas un dossier au niveau du département, elle n'est pas prise en charge. Elle est prise en charge parce que nous, notre politique, c'est qu'à partir du moment où vous mettez le pied au domicile d'une personne âgée ou une personne en situation d'handicap, on ne va pas dire non, on va laisser la personne parce qu'elle n'a pas de prise en charge. Elle est prise à 100% en charge par la structure, par main.
Alors,
dans la main.
Je vais intervenir parce que du coup, je ne veux pas qu'on s'écarte de la question clé. Les nerfs de la guerre, c'est quand même l'argent. Vous avez parlé tout à l'heure de travail d'accompagnement, travail administratif gratuit. Est-ce à dire qu'à ce jour, vous n'avez pas de budget de fonctionnement?
On a un budget de fonctionnement, bien sûr, mais on n'a pas de subvention.
Pas à la hauteur des besoins réels.
On n'a pas de subvention. On n'a pas de subvention depuis, on va dire, ça va faire plus de 8 ans, 10 ans, 8 ans.
Ouais, c'est
voilà. C'est pas le fait qu'on n'a pas déposé. On a déposé des dossiers et bon, on n'a pas de retour. Donc, on s'est dit, ça ne vaut pas la peine. Voilà.
Est-ce qu'on peut se poser la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une réelle volonté politique pour soutenir Main dans la main qui fait un travail exemplaire, remarquable.
Exactement.
Et concrètement, on peut sentir qu'il y a quand même une fragilité au niveau de...
Ah ben oui.
Tu n'as de la guerre,
ben oui. Il y a une fragilité parce que, bon, je venais de vous le dire, tout ce qu'on fait en plus... C'est pas pris en compte et c'est par nos propres moyens et donc c'est très difficile pour nous. On essaie de travailler avec d'autres partenaires, essayer d'envoyer les intervenantes par-ci par-là parce que quand les intervenantes viennent nous dire Madame Delgado, le frigo est vide, il y a rien, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous n'allez pas dormir, il faut trouver à manger à cette personne.
Vous avez parlé de partenaires, Madame Banac, éventuellement, comme l'association Sheba qui travaille avec le Secours Populaire. Est-ce que vous avez interpellé aussi le Secours Populaire qui, éventuellement, peut vous distribuer des colis?
Via Sheba. Donc, j'ai pris... le Secours Populaire est déjà passé ici. Il y a deux fois, on envoie, mais au niveau administratif... C'est souvent un peu compliqué parce que quand on demande qu'il faut la présence d'une personne âgée sur place, c'est impossible. Nous, nos personnes âgées, beaucoup ne peuvent pas se déplacer. Même au niveau du Médecin du Monde, on en a fait et c'est toujours, il faut que la personne se déplace. Nos personnes ne peuvent pas se déplacer.
Et est-ce qu'éventuellement, voilà, il pourrait être envisagé des passerelles entre l'association Sheba, entre autres, puisqu'elle est sur le quartier et qu'elle travaille le Secours Populaire? Est-ce que des représentants ou des salariés de Main dans la main pourraient éventuellement, au nom de telle ou telle personne âgée qui habite le quartier, se représenter sur place et bénéficier d'un colis?
Je ne sais pas, mais il faut que les choses soient claires. Et pourquoi pas? À partir du moment où il y a une transabilité pour nous, qu'on sache qui est qui fait quoi.
Tout à fait.
Pourquoi pas? Puisque nous, c'est l'intérêt de la personne qui est prise en charge. Voilà. Et ce que je veux aussi, dans les domiciles, peut-être vous allez me poser cette question, les difficultés qu'on rencontre dans les domiciles.
Ce sera l'objet de notre prochaine interview après la pause.
D'accord, voilà.
Merci Jean-Pierre.
Oh, Moi c'est Victoria, née il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ses efforts, demeure ses jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
Nosotros, hija mía, somos, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
M'a dit pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci j'ai ma famille, plus loin y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois je pleure en cachette, mais pas longtemps car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre lève de l'exploit.
Nosotros, hija mía, somos, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
Papá est tabou, il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y'en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y'a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche. Sans d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours qu'on est en Argentine.
La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria. Juntos hasta la victoria.
Toujours en direct, les Échos de la Busserine, jeudi 3 octobre, au sein de l'association Main dans la Main, itinéraire d'une association d'entraide devenue indispensable. Voilà, indispensable. Effectivement, c'est vrai que l'association Main dans la Main est indispensable aujourd'hui pour les personnes âgées. Je continue à te passer la parole, Jean-Pierre, à toi.
Alors, on m'a demandé à Angélique, qui s'occupe de l'accueil, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que la vie est un long fleuve tranquille au sein de Main dans la Main, ou est-ce qu'il y a une réalité que l'on ignore et qui n'est peut-être pas aussi simple et évidente que cela?
C'est jamais simple, hein. Dans l'accueil, c'est jamais simple. On reçoit beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup d'appels. Enfin, des fois, bon, c'est vrai que les parents, les enfants de la personne, ils sont très exigeants sur pas mal de choses. Mais on essaie de gérer avec. On est vraiment, il faut vraiment leur donner l'essentiel, quoi. Leur apporter pas mal de choses.
Et quel est-il, cet essentiel ? Les demandes tournent autour de quoi, en fait ? Est-ce que c'est un soutien psychologique, administratif ?
Alors, c'est administratif et un soutien aussi en même temps psychologique, parce qu'il y a des fois où les patients sont là, ils nous appellent pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une intervenante qui va passer ? On leur dit oui, ne vous inquiétez pas. Vous c'est tout, tout un soutien psychologique vraiment. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'association Main dans la Main, c'est très important parce qu'ils sont très, on est très, c'est une famille en fait. C'est vraiment une famille. On est vraiment, que ce soit salarié ou dans, dans le bureau, on est vraiment famille. On sait ce qu'on doit faire.
Donc, mais une voilà. bonne cohésion au niveau de l'équipe. Et,
exactement.
Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, par rapport au planning, parce que bien, je m'occupe, je suis entre guillemets aussi au planning et à l'accueil. Donc, je vois un petit peu les difficultés. Mm-hmm. Mais comme Angélique disait, il faut faire vraiment preuve de tact avec les bénéficiaires parce qu'ils sont très exigeants. Mm-hmm. Comme on disait, parfois ce sont les enfants qui exigent. Et le planning, ça change tous les minutes, mm-hmm. pour ainsi dire. Hein, c'est pour schématiser. Tous les jours, on change.
Il y a des modifications.
Tous les jours.
Qui sont liées à quoi au quotidien, la réalité exige une prise en charge différente, donc vous vous adaptez en fait.
Ça peut être la maladie du salarié, ça peut être aussi l'absence du bénéficiaire. On n'est pas prévenu, donc la salariée va, trouve la porte fermée. Donc en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On n'est pas prévenu. Et ça pose énormément des difficultés.
Est-ce que l'accueil est davantage téléphonique ou les gens se déplacent là? Est-ce que la famille vient dans vos locaux et
ça arrive.
Comment ça se passe? Est-ce que c'est ça va en général? Relations sont...
Ça se passe bien dès qu'on essaye de ne pas, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire preuve de tact, mm-hmm. discuter, savoir qu'est-ce qui se passe, leur dire, mais écoutez, on est là pour régler nos problèmes, hein, donc mm-hmm. Dites-nous vos doléances, sinon on est là pour arranger les choses. Et ça se passe, en règle générale, ça se passe bien. Mais c'est surtout que c'est très très difficile par rapport au changement du planning. Ça veut dire qu'on passe des heures inimaginables sur le planning. Voilà.
Une question que je pose aussi à Madame Banac, hein. C'est vrai qu'il y a des habitants qui viennent où leurs parents, leur maman ou leur papa sont très gravement malades, tout ça. Et éventuellement, est-ce que ces femmes-là qui vivent avec leurs parents demandent de travailler pour leur papa? Est-ce que vous le faites ou comment ça se passe?
C'est
malgré qu'il n'y a pas de formation.
Voilà. Vincent pourrait peut-être y répondre puisqu'il est sur le terrain.
On est tous sur le terrain. Ça, c'est le côté mandataire qu'on disait tout à l'heure où le père est le bénéficiaire et qui va demander que ce soit son fils, sa fille, sa belle-fille ou bien le voisin qui doit travailler. Nous, on est là pour faire la gestion administrative. On ne peut pas dire non, puisque la demande est faite directement au département où le parent va demander au travailleur social qui a été désigné que bon, j'aimerais que ça soit mon fils. Voilà. Et ça, bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment, un service très épineux. Voilà.
Est-ce que Vincent, il peut nous parler? Bon, Vincent nous a rejoint, donc il va nous parler de sa fonction.
Bonjour.
Bonjour Vincent. Et il va nous dire donc concrètement quelle est cette réalité au quotidien, quelles sont les difficultés rencontrées au sein de ses familles ou dans le travail, dans l'organisation de ce travail.
Alors tout d'abord, moi, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête quand il s'agit d'aller chez les familles ou accompagner des personnes. C'est d'abord être à l'écoute, disponible, savoir s'adapter, être efficace et être exigeant. Et avec d'autres personnes, on accompagne plus particulièrement des personnes en situation de souffrance psychique et psychiatrique via le CMP, le Centre médico-psychologique de Sainte-Marthe et puis autres, et puis l'hôpital Édouard Toulouse. Donc il s'agit aussi d'accompagner des personnes à la réadaptation sociale et à une réadaptation aussi de logement de droit commun, puisque entre autres pour les personnes que j'accompagne avec d'autres personnes de main dans la main, ce sont des personnes qui sont pour la plupart en hospitalisation et que l'hospitalisation n'est pas forcément une solution. Voilà. Donc on essaye, dans un accompagnement en équipe pluridisciplinaire, d'accompagner ces personnes au mieux, en essayant de les réadapter dans le logement de droit commun. Et puis d'accompagner aussi toutes ces souffrances psychiques et psychiatriques.
Merci Vincent.
Alors, pour faire suite à Vincent, beaucoup ont des chèques CESU préfinancés par l'État.
On dit ?
Chèques CESU préfinancés par l'État.
C'est quoi ?
Alors, c'est les chèques que l'État, donc le conseil départemental par exemple, ou les MDPH, donne pour les personnes qui ne peuvent pas accomplir les actes essentiels de la vie. Malheureusement, ces personnes gardent ces chèques. Ils ne les utilisent pas. Donc ça, c'est pour vos auditeurs, pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent utiliser ces chèques.
Et à quoi servent ces chèques ? On peut les utiliser de quelle façon ?
Alors, pour l'aide ménagère, pour les courses, pour l'accompagnement, etc. Donc ces chèques, c'est déjà payé, ils n'ont rien à débourser. Il faut simplement qu'ils passent par une structure, comme par exemple Mandalama.
Hein,
parce qu'ils ne savent pas, malheureusement, il y a des sommes énormes que le conseil départemental donne et qui est perdu. D'accord ? Voilà.
Comme vous avez dit, c'est le département ou l'État ?
Le département, voilà. Département plus les MDPH. MDPH aussi,
voilà.
Les deux.
Voilà, c'est pas pareil, c'est pour ça.
Donc Joséphine, comment s'organise au quotidien, de façon hebdomadaire, tout le travail et toutes ces interventions demandent une organisation, des réunions, comment ça se passe de façon...
Main dans la main, tous les mois, tous les lundis, l'équipe technique... On a une réunion pour faire un briefing sur ce qui s'est passé dans la semaine, les réclamations, les conflits, ce qui manque, voilà, tous les lundis. Voilà, les intervenants, c'est tous les premier mardi du mois, donc oui, tous les deux mois, il y a une réunion des intervenantes et on a tous les mois la réunion. La formation avec la psychologue. Voilà, la psychologue.
Qui fait partie de votre équipe ?
C'est un prestataire privé qu'on paye. Voilà, donc, voilà, qui est rémunéré. Donc, une fois par mois pour les salariés. Et dans ces réunions, s'il y a une souffrance parmi les salariés, donc, elle les prend en plus. Voilà,
souvent
en charge en plus, oui, en charge, voilà. Et ça, donc, ces ateliers ne nous concernent pas, mais on a mis cet outil pour les salariés, pour que les salariés se sentent vraiment libérés de tout ce qu'ils vivent
prise en charge.
Dans les domiciles. Je vous dis, c'est pas facile. Quand il y a un vol au domicile, c'est toujours l'intervenante, ce n'est plus l'auxiliaire, c'est toujours les aides ménagères. Ma femme de ménage m'a volé, ma femme de ménage m'a fait ceci, ma femme de ménage a fait ceci. Même si ces actes-là sont produits par la famille ou bien par d'autres, mais c'est toujours la personne concernée, c'est toujours l'aide ménagère. Et parfois, depuis 17 ans et demi qu'on est là, on n'a jamais eu de vol. Voilà, il y a des suspicions, mais quand on va au fond, on n'a jamais eu de vol. Voilà. Donc moi, nous encadrons les intervenantes parce que s'il n'y a pas des bonnes intervenantes, voilà, déjà les intervenants en bonne santé, les prestations ne peuvent pas se faire. Quand il y a quelque chose au domicile, il y a un des encadrants qui se déplace pour aller au domicile. On ne les laisse pas comme ça à la nature et pour nous, l'intervenante, c'est vraiment la clé.
Vincent, tu veux parler ?
Oui, pour compléter ce que vient de dire Mme Banach aussi, au niveau des temps de rencontre, on a des temps de réunion d'équipes pluridisciplinaires lorsqu'il s'agit d'accompagner des personnes en souffrance psychique et psychiatrique. Donc on a des réunions d'équipes pluridisciplinaires, soit avec les SAMSA, soit avec les CMP ou Édouard Toulouse. Donc quand je dis équipe pluridisciplinaire, c'est médecins, infirmiers, aides-soignants, kinés. Voilà.
Donc le travail de que fait Mendalamé, ça s'apparente un petit peu au travail qui existe dans les institutions avec une prise en charge psychologique, ce qu'on appelle, nous, dans une maison d'enfants, l'analyse de la pratique. Donc concrètement, vous êtes... Donc tout ceci me renvoie un petit peu sur le parcours un petit peu spécial de Joséphine Banac, qui est à la fois habitante du quartier, qui a créé la structure bénévole, mais pas que. Puisque concrètement, quand on a parlé de la formation des intervenants, Vincent est éducateur. Concrètement, quel est votre parcours? Quelle est votre formation, Joséphine? Est-ce que vous êtes simplement une habitante du quartier altruiste qui se dévoue pour son quartier? Ou est-ce que derrière tout ça, il y a une formation pour c'est, gérer une telle équipe?
Militante aussi.
Non, mais obligatoire. il y a des formations universitaires.
Quelles sont-elles?
Donc, je suis titulaire du Café Rius, qui est exigé pour être directeur responsable d'une structure dans le médico-social. Et puis, j'ai fait d'autres études. Plus, je me suis lancée dans le... pour avoir le CAFDES. Voilà, le CAFDES que j'avais commencé et qu'il me reste une module à terminer. Voilà.
Ah, super.
C'est-à-dire toutes ces prises en charge, concrètement, on pourrait penser que ces prises en charge multiples au sein d'une famille, deux personnes, ça représente un coût. Mais est-ce que ce n'est pas moins cher qu'une prise en charge, qu'une hospitalisation? Parce que concrètement, votre prise en charge au domicile évite que la personne soit placée dans les structures qui manquent de place. Et le coût est moindre, non? Semble-t-il.
Tu reprends, je reprends.
Le coût à domicile est moindre qu'une hospitalisation. Vu déjà le prix que des aides à domicile sont payées, on est
bien en dessous du
tarif de milieu hospitalier.
Et puis le but aussi, quand on dit le maintien à domicile, parce que maintenant avec la loi de 2 janvier 2002, on ne peut plus obliger une personne d'aller dans une institution. Chaque personne aimerait terminer sa vie à son domicile et donc l'État met les moyens pour permettre à la personne de vivre chez elle dans des bonnes conditions. Et dans les bonnes conditions, c'est quoi? C'est d'avoir un appartement décent, se nourrir comme il faut. Mais de jour au jour, un appartement adapté. Parce que quand vous avez des personnes qui habitent au cinquième, on en a là tout autour de nous, que ça fait des années, pour pouvoir descendre une personne, il faut trois intervenants. Il faut mettre trois personnes pour descendre sur une chaise roulante. On a une personne, elle a perdu son épouse, mais on a pu l'amener au cimetière une seule fois. D'accord. Parce qu'il faut trois personnes pour le descendre.
Ah oui. Madame Banac, je voulais savoir, jette pas la pierre aux EHPAD. C'est que le travail que vous faites, c'est incroyable, c'est hallucinant. Parce qu'aux EHPAD, c'est qu'ils ont peut-être des aides-soignantes, un médecin, mais qui n'est pas souvent. La nuit, le médecin, il a fini la journée, il s'en va. Et c'est vrai que, et c'est vrai que vous, y a tout, c'est-à-dire il y a un suivi, c'est-à-dire psychologique, aide aux courses, aide à la personne, il y a les infirmiers qui sont là, les psychologues, les médecins de proximité. Quand je vois les EHPAD d'aujourd'hui, je me dis, mais franchement, chapeau quoi, le travail que vous faites.
Farid met le doigt sur le fait qu'il y ait une qualité relationnelle supérieure, puisque concrètement, quand on vit avec une personne, quand on s'en occupe, quand on a cette disponibilité que l'on ne trouve pas forcément dans les EHPAD. Au niveau du public, justement, Joséphine, Mendalamé, ça représente combien de personnes? Combien de prises en charge?
Il y en a beaucoup.
C'est-à-dire
on a un chiffre,
qu'on ait une idée de...
On a plus, si on prend le mandataire, prestataire, on est à plus de 300.
300 prises en charge quotidiennes.
Tous les jours, au quotidien.
Ok, donc au niveau de la logistique, Mendalamé, vous allez nous... Angélique va nous redonner l'adresse concrètement postale pour qu'on puisse venir. Et si vous avez un mail, vous allez nous le donner concrètement. Et ça représente quoi, Mendalamé? une structure de combien de mètres carrés, du matériel, c'est-à-dire vous avez des véhicules de fonction, vous avez, ça représente quoi?
Je vous donne l'adresse déjà, parce que moi j'ai l'ancienne mais j'ai pas la nouvelle.
Il
n'y
a pas de souci. 58 rue
Mamboutir. 58 rue à Mamboutir, oui, dans le 14e.
D'accord. Et vous avez un email pour vous contacter?
Oui, alors c'est ASSC, main dans la main, tout accroché.
ASS?
ASS.
Oui.
C'est main dans la main, tout accroché, @wanadoo.fr.
Et un numéro de téléphone?
Oui, alors c'est le 04 91 58 31 46.
Par contre, une précision, le mail, c'est tout en majuscule.
Ah oui, c'est vrai.
Une particularité de main dans la main.
C'est
d'accord.
Ça.
C'est bien de le préciser.
Et on a notre site, hein, vous pouvez...
Oui, c'est quoi le site? Dites, je
voilà. Va le dire.
C'est quoi votre site?
www.maindalamain-6marseille.com. Et c'est tout en minuscule.
D'accord. Et vous avez au niveau des locaux, donc ça représente combien de mètres carrés, main dans la main, là, sur le Grand Saint-Barthélemy? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vos locaux sont suffisamment équipés? Est-ce que le bailleur, votre relation avec le bailleur est bonne? Est-ce que vous êtes soutenu par votre bailleur concrètement?
Donc je remercie d'abord le bailleur
qui est
HNP, Habitat Marseille Provence. Provence, voilà. Et depuis la création, on est toujours sur le même site.
Combien de mètres carrés ça représente?
Actuellement, on est à 243 mètres carrés.
Est-ce que c'est suffisant?
Suffisant, non, on s'adapte.
Vous adaptez.
On s'adapte.
Est-ce que les locaux sont de...
Oh non.
Voilà. Vous n'avez pas de soucis particuliers?
Oh non, on a, les locaux ne sont pas adaptés. Sont vraiment pas... Il y a une partie qui est adaptée, voilà, mais une grande partie où les salles de cours, les cuisines, pour les cours, donc rien n'est adapté.
Justement, madame, dans le cadre de la requalification de la rénovation urbaine,
oui.
Ils vous ont plus ou moins agrandi les locaux. Mmh. Comme j'ai compris, il y a des problèmes.
Oui. Hein,
il y a des problèmes d'inondation, tout ça. Où ça en est actuellement?
On s'est rapproché de HMP. Puisque c'était Bug qui avait gagné le marché, ils ont fait les travaux, soi-disant ils ont fait des travaux, hein, donc vous-même vous voyez si ce sont des travaux définitifs, ça va faire un an et demi, presque deux ans, on n'est pas... Il nous manque presque tout. Vous voyez, on a des fils qui se baladent, les bureaux qui ne sont pas connectés. Vous avez vu, on est vraiment, ça ne va pas.
Donc, concrètement, moi je pense que nous avons démontré à travers cette réunion que Main dans la Main est une structure importante.
Cette émission.
Cette...
Pas une réunion.
En réunion, émission, parce que nous sommes aussi entre nous. Une structure importante et qu'il est nécessaire de qu'il y ait une réelle volonté politique pour pallier à toutes les carences qu'il y existe dans notre territoire, accompagner la population, aider les personnes âgées justement à être autonomes et autonomes concrètement. Et donc... Quand on voit le contexte dans lequel Main dans la Main œuvre, quand on voit toutes les difficultés du Grand Saint-Barthélemy, moi je pense qu'il est plus que nécessaire qu'il y ait une réelle volonté politique pour soutenir une structure comme Main dans la Main, autant financièrement qu'au niveau de la logistique à travers le bailleur. Voilà. Donc ce sera ma conclusion.
Et pour ajouter, il ne faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de personnes qui vieillissent.
De plus en plus.
Voilà.
De plus en plus. Voilà.
Et dans le cadre national aussi, ils en parlent. Mmh. C'est vrai que, et quand on voit de plus en plus de personnes âgées comme ça, vous êtes indispensable pour ces personnes-là.
Et voilà, donc avant de continuer tout à l'heure,
je
ne vous ai pas donné le numéro d'astreinte.
Oui.
Donc, qui est le 07 68 66 84 57. Donc, c'est ce numéro d'astreinte, c'est pour des personnes en situation d'handicap et qui va de 19h à minuit.
Juste.
Je vais souligner aussi, on ne peut pas, main dans la main, on ne peut pas parler et. En oubliant la mairie du 13-14. Voilà, qui, en cas de besoin, qui, chaque fois qu'on les sollicite, que ce soit au niveau d'activité, de loisirs, que ce soit au niveau de, d'habitat pour certaines personnes, personnes âgées, ils ont toujours répondu présents.
En tout cas, merci Madame Banaf. Juste avant de terminer, éventuellement, pour l'association Main dans la Main, en termes de, d'activité, je veux dire, en termes de perspective, qu'est-ce qu'il va avoir
Là, donc, Main dans la Main, depuis un certain temps, on est en train de développer un partenariat avec notre... avec notre partenaire Famille et Loisirs pour les activités parce que n'ayant pas de, de budget, on va dire, c'est pour sortir, sortir les personnes de leur domicile pour qu'ils aient, voilà, pour participer dans des activités à l'extérieur et avec leurs intervenantes. Donc, il nous faut des moyens de tout ça. Et c'est ce qui nous manque, voilà, la logistique.
Jean-Pierre, un dernier mot c'est bon.
Je voulais remercier toute l'équipe voilà. De la Main pour leur
en tout participation. Cas, en tout cas, merci beaucoup d'avoir de nous avoir déjà accueillis. Hein. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci Vincent, merci Amélia, Angélique, merci Fatou. Ça. Madame Banaf, un grand merci. Hein.
C'est moi voilà. Et c'est nous qui vous remercions.
Merci aux techniciens de Radio Galère qui est toujours fidèle au poste, Sidi. Et Jean-Pierre, je te remercie d'avoir participé. Voilà.
Bonne continuation, voilà. Main dans la Main et voilà. Bon courage à vous.
Et n'hésitez pas si vous avez des personnes autour de vous, des personnes en situation d'handicap ou personnes âgées. Et surtout que Main dans la Main, on développe le syndrome de Diogène. Dans Marseille, le syndrome de glissement.
Voilà, juste, et on se retrouve le mois prochain à la MFA pour le forum. Oui, Jean-Pierre
je redonne à nouveau le numéro
Astreinte.
Oui. 07 68 66 84 57. N'hésitez pas, vous serez attendu et accompagné, Main dans la Main.
Voilà, et je vous re-invite d'aller sur le site du vivreensemble.org. Et vous allez voir le travail qu'on fait avec l'ensemble des partenaires. Et j'invite aussi les partenaires, éventuellement, d'alimenter ce site quand, voilà, même Madame Banaf, éventuellement, on se verra pour voir comment alimenter votre site et notre site pour qu'on puisse travailler en partenariat. En tout cas, merci et on se retrouve le mois prochain.
Merci. Au revoir. Merci.